Jean-Paul Pitchy.
Bonjour, deux grandes stars de la gourmandise seront présentes en novembre à Neuchâtel. Pour sa 10e édition, Chocolatissimo a invité un champion du monde de sculpture en chocolat et un chef étoilé. Quelle sera la composition du Parlement fédéral à quelques jours des élections, direction Zurich pour un tour d'horizon des enjeux dans le plus grand des comptes en Suisse. L'homme qui a tué deux Suédois à Bruxelles a été abattu par la police ce matin lors de son interpellation. Une des victimes de l'attentat habitait en Suisse. Retour sur cette nuit d'angoisse avec notre correspondant en Belgique. Un ciel partagé entre soleil et nuages, l'atmosphère se réchauffe légèrement. Il fera entre 12 et 16 degrés sous une légère bise qui soufflera sur le littoral et dans les vallons. C'est un procès de 3 jours qui s'est ouvert ce matin au tribunal criminel de La Chaux-de-Fonds. Face au juge, 7 jeunes qui faisaient partie de la bande du 47 sévissant dans les montagnes. Ils sont jugés pour avoir commis un enlèvement en mars 2021. Le principal accusé a déclaré qu'il ne se rendait pas compte de ses actes. Les 7 prévenus, âgés de 18 à 20 ans au moment des faits, sont accusés d'avoir agressé un jeune à la gare de Neuchâtel et de l'avoir placé de force dans le coffre d'une voiture jusqu'à La Chaux-de-Fonds. Menacée de mort, la victime a été déplacée dans une cave où elle a été contrainte de faire une vidéo à l'attention de la bande de Bienne. La personne enlevée a été frappée à nouveau avant d'être lâchée. Les tensions entre les deux bandes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds avaient par la suite coûté la vie à un jeune Loclois en septembre 2021 à Lausanne. Une affaire qui fera l'objet d'un autre procès. La manifestation pour les gourmands est de retour à Neuchâtel du 4 au 11 novembre. Chocolatissimo prendra place dans plusieurs lieux de la ville. L'édition 2023 marque le 10e anniversaire de l'événement. Pour fêter cette 10e édition, les organisateurs ont invité 2 grands noms de la chocolaterie et de la pâtisserie. Ils n'oublient toutefois pas les acteurs locaux du secteur. Violaine Blétry de Montmolin, conseillère communale en charge de l'économie et du tourisme.
On a voulu en fait se faire rencontrer les stars locales autour du chocolat, donc tous nos confiseurs chocolatiers qui ont créé il y a 10 ans une association, l'association Chocolatissimo, avec des stars mondiales. Nous aurons un champion du monde des pièces montées liées au chocolat, monsieur Cardozo, qui viendra les week-ends du 4 et 5 mai faire une pièce montée à l'hôtel de ville de Neuchâtel. Et nous avons aussi un chef étoilé qui est très connu dans la région, notamment dans les restaurants alémaniques, qui est monsieur Löffel, qui viendra faire toute une série d'ateliers.
Est-ce que l'invitation de ces 2 stars de la pâtisserie et de la chocolaterie, c'est un peu une forme de reconnaissance pour Chocolatissimo ?
Oui, aussi, parce qu'ils ont été ravis qu'on les invite. Ils connaissaient la manifestation, ils connaissaient le chocolat et l'histoire du chocolat à Neuchâtel.
Des propos recueillis par Gaëtan Procureur. Retrouvez le programme complet de Chocolatissimo qui se tient à Neuchâtel du 4 au 11 novembre sur rtn.ch. Politique agricole et aménagement du territoire, 2 thèmes qui tiennent à cœur à Quentin Geyser. Le député UDC au Grand Conseil neuchâtelois de 32 ans habite Lignières et il siège au château depuis le début de la législature. Il est l'un des membres fondateurs de l'UDC de l'Entre-deux-Lacs, section qui a vu le jour début 2014. Quentin Geyser, qui était ce matin l'invité des coulisses du château, a repris l'exploitation agricole de son père il y a 13 ans. Un métier qu'il fait par passion, mais qui a aussi le revers de la médaille. Quentin Geyser.
On est indépendant, on est dehors et puis on touche à tout. Hein, donc on fait de la mécanique. Moi j'ai des céréales, j'ai des vaches nourrices. Beaucoup d'administration, évidemment, de plus en plus. Hein, étant donné que dans l'agriculture, ce n'est pas nous qui tenons le couteau par le manche. Hein, c'est la Confédération de la politique agricole et puis on doit faire ce qu'on nous dit. Pistère, si on ne le fait pas, ben, vous pouvez mettre la clé sous le paillasson, c'est vite vu.
Très très contraignante la politique agricole.
Elle est assez contraignante, elle part un peu dans tous les sens. Puis on nous demande de plus en plus avec toujours le même budget au final et c'est quand même très compliqué.
Dossier qui va passer au Grand Conseil sur lequel actuellement vous plancher particulièrement, c'est forcément.
C'est le budget qui me prend beaucoup de temps. Et ce qui m'inquiète, c'est une augmentation des EPT qui est quand même terrible depuis 2022, les comptes 2022 jusqu'au budget 2024. Je vois qu'il y a plus de 170 EPT de plus. Puis je me demande un petit peu ce qu'ils font. Quand je lis les rapports, ouais, ok, mais concrètement, qu'est-ce que fait tout ce monde ? Et puis, à un moment donné, on a des volontés d'investir, mais on n'a pas de volonté de diminuer notre budget de fonctionnement. C'est ça qui m'inquiète à l'avenir, parce que les revenus fiscaux sont au maximum cette année. Puis après, j'ai l'impression que ce sera la longue descente aux enfers.
Quentin Geyser était l'invité de Sarah Massy dans la matinale. Un entretien à retrouver en vidéo sur rtn.ch. Une initiative qui veut renforcer la souveraineté de la Suisse est lancée. Elle émane du mouvement alémanique Masfol, qui s'est fait connaître durant la pandémie de Covid pour son opposition aux mesures sanitaires. Les initiants ont présenté aujourd'hui leurs arguments à Berne. Le texte a pour but de garantir aux citoyens une protection conséquente des droits constitutionnels et de défendre la souveraineté du pays. Les porteurs de l'initiative ont désormais 18 mois pour récolter les 100 000 signatures nécessaires. Les enjeux et les thématiques des élections fédérales de ce dimanche varient d'un canton à l'autre. Quatre regards cette semaine sur quatre cantons hors de Suisse romande. À commencer par le plus grand, Zurich, 1,5 million d'habitants et 36 élus sur les 200 du Conseil national. C'est surtout là que les principaux mouvements seront marqués. Les explications de notre correspondant parlementaire, Serge Jubin.
À Zurich comme en Suisse et malgré son caractère urbain, c'est l'UDC qui domine. Il n'y a qu'en ville de Zurich et de Winterthur qu'elle ne dicte pas sa loi. En 2019, l'UDC zurichoise avait subi un net revers, passant de 12 à 10 conseillers nationaux. Mais le parti de Christophe Blocher a réalisé un fort rebond lors des élections cantonales du début d'année, qui lui permet d'envisager de récupérer ses deux fauteuils. Ce d'autant que Zurich aura un siège supplémentaire à la Chambre du Peuple en raison de son accroissement démographique, siège pris à balle. Ville. Comme ailleurs en Suisse, les Verts, qui étaient passés de 2 à 5 élus en 2019, s'essoufflent et devraient perdre des plumes. Pour les autres partis, ce pourrait être plus ou moins le statu quo. Un siège pourrait aller à la figure de proue des anti-mesures Covid, Masfol, Nicolas Raimondi. Pour le Conseil des États, le sortant socialiste Daniel Josic devrait être élu aisément, peut-être déjà au premier tour. La lutte sera chaude pour le second fauteuil, délaissé par le PLR Roedi Nozer qui s'en va. Entre l'UDC Gregor Rutz, la libérale radicale Regine Sauter et la vert libérale Tiana Moser, qui pourrait profiter lors d'un second tour d'un report des voix de la gauche.
L'auteur de l'attentat de Bruxelles est bien l'homme abattu ce matin par la police belge. Information confirmée par le procureur fédéral de Belgique et le centre national de crise. Touché au thorax lors de son interpellation, ce ressortissant tunisien de 45 ans a succombé à ses blessures au service des soins intensifs à l'hôpital. Il avait tué hier soir deux ressortissants suédois en marge d'un match de football entre la Belgique et la Suède. L'un d'entre eux était au bénéfice d'un permis C en Suisse, selon le département fédéral des affaires étrangères. La troisième victime, grièvement blessé, est également d'origine suédoise. La chasse à l'homme menée toute la nuit a abouti dans la matinée. Les précisions de notre correspondant en Belgique, Pierre Benazé.
Grâce à un témoignage, Abdessalem Lassoued a été interpellé peu avant 8 heures dans un café à Skarbeek, une commune du nord de Bruxelles, à environ 1 km de son domicile. La police fédérale belge l'a neutralisé avec au moins un tir au thorax. Dans un parc tout proche, la police a retrouvé l'arme automatique employée lundi soir pour abattre les deux victimes suédoises. Ce Tunisien de 45 ans en séjour illégal était connu de la police belge pour des faits de trafic d'êtres humains et d'atteinte à la sûreté de l'État. Il a déposé une demande d'asile en Belgique en novembre 2019. Dans une conférence de presse du gouvernement fédéral cette nuit, le ministre de la Justice ajoute qu'il avait été signalé comme radicalisé et désireux de se rendre dans une zone de combat pour le djihad, un signalement provenant, je cite, d'un service de police étranger. Ce signalement n'a pas été confirmé par la sûreté de l'État, les services belges de renseignement.
Un attentat qui a replongé la Belgique dans de vieux souvenirs, déjà touchés à plusieurs reprises par des attaques de l'État islamique. Le match de football Belgique-Suède a été arrêté hier soir à la mi-temps et le public n'a pu quitter le stade que vers minuit, le temps de sécuriser la zone. Pierre Benazé revient sur l'ambiance particulière qui régnait dans la ville.
Les rues de Bruxelles avaient un aspect étrange hier soir. Malgré la rapidité de la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes étaient encore assises jusqu'à des heures tardives dans les terrasses et cafés du centre-ville. La situation ce matin dans la capitale belge n'est pas très différente, même si certains établissements scolaires sont fermés, d'abord parmi les écoles internationales et européennes, et ensuite parmi les écoles flamandes de Bruxelles, mais pas les écoles francophones. Il y a une forme de résilience des Bruxellois qui avaient déjà subi un confinement peu après les attentats de Paris de novembre 2015. Le soulagement suite à l'arrestation d'Abdessalam Lassoued était palpable, mais les Bruxellois avaient entamé ce matin leur journée de travail comme si de rien n'était. Les mesures de sécurité renforcées restent en place, avec une surveillance accrue des transports et des bâtiments publics.
En France, l'auteur de l'attaque au couteau qui a tué un enseignant dans un lycée d'Arras a posté une vidéo de revendication. Il l'a fait avant de passer à l'acte, selon une source proche du dossier, confirmant une information de CNews. Dans cette vidéo, Mohamed Mogouchkov, de nationalité russe âgé de 20 ans et fiché pour radicalisation islamiste, revendique son geste au nom de l'État islamique. Il y fait en outre une allusion très marginale à l'attaque du Hamas en Israël.
Midi 25 sur RTN. Sport.
Les grands débuts de Kyle Olson avec le HCC, c'est ce soir. Le Canadien, fraîchement arrivé au Mélèze, disputera son premier match avec ses nouvelles couleurs. Le HC La Chaux-de-Fonds se déplace du côté de Viège et tentera de remporter un deuxième match consécutif après son succès samedi contre Bâle. Coup d'envoi de cette partie à 19h45 à vivre en direct à partir de 19h30 sur RTN avec les commentaires de Vincent Costet et de son consultant Hervé Anderegg. Enfin, Eric Gélina s'écope de 3 matchs de suspension. Le joueur du HC Ajoie est puni après sa charge à la tête contre le Lausannois Ken Jaeger vendredi dernier en National League de hockey sur glace. Il doit en outre s'acquitter d'une amende de 5 200 francs. Bon appétit, bel après-midi.